Lisons à partir du verset 16 de Proverbe 10. Il est dit ceci, « L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de chose. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. » Et je m'arrêterai au verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Nous sommes appelés de la même manière que Dieu à bénir. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, entre autre chose de tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous appelle à bénir. Et Romains 12, 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas, bénissez. » Donc nous devons dire de bonnes paroles et agir conséquemment par rapport à ces bonnes paroles que nous annonçons, nous devons aussi agir dans le bien envers tous. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident, nous le savons, ce n'est pas toujours facile, même en tant que chrétien. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous aider à agir comme Dieu nous le demande. C'est vrai. Et là, dans ce verset sur lequel je me suis arrêté, qui fera d'ailleurs l'objet de cette méditation, il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui veut dire que, quand bien même il nous arrive de bénir parce que nous sommes appelés à cela, notre bénédiction, quand bien même nous désirons du bien pour notre prochain, notre bénédiction peut quand même avoir des failles. Mais en ce qui concerne Dieu, quand c'est vraiment la source de la bénédiction, c'est Dieu, cette bénédiction-là, par contre, elle nous fait prospérer obligatoirement. Nous allons prospérer et elle n'est point suivie, donc, de chagrin. Cela peut nous réjouir parce que si nous sommes au bénéfice de la bénédiction de Dieu, nous savons que nous sommes heureux et nous serons heureux par rapport, donc, à ce que Dieu nous accorde. Et il est bon pour nous de bien insister sur le fait que ce soir, nous ne parlons pas du fait, effectivement, que d'autres personnes puissent nous bénir. Quand bien même Dieu peut utiliser qui il veut pour nous bénir. Dieu le fait régulièrement à travers des personnes, il bénit les autres. Ça vient de lui, c'est lui qui conduit des circonstances pour que nous soyons bénis par d'autres. Mais ce qui importe, c'est vrai pour nous, c'est de savoir d'où vient la source de cette bénédiction. Si vraiment elle vient de Dieu, elle va nous faire donc prospérer. Parce que Dieu veut bénir tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Il veut tous les bénir. Il n'y a pas une personne que Dieu ne voudrait pas bénir. Et encore plus ceux qui lui appartiennent. Dieu veut bénir l'Église. Et il bénit l'Église. 1 Timothée 2,4, lorsque une exhortation de l'apôtre Paul était adressée donc à Timothée et à la communauté chrétienne dont il avait la responsabilité. Il dit « J'exhorte donc l'apôtre Paul avant toute chose à faire des prières. » Donc il nous appelle tous à prier, des supplications, des requêtes. Tout ça, ce sont des formes de prières, ce sont des types de prières que nous pouvons donc adresser à Dieu, supplications, requêtes. Sans oublier de faire des actions de grâce, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Et il dit bien que cela, c'est pour tous les hommes. Ce n'est pas pour une catégorie d'hommes. Ce n'est pas pour des privilégiés. C'est pour tous. Pour tous les hommes, il est appelé, nous sommes appelés, nous qui connaissons comment prier Dieu, nous sommes appelés donc à prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et que veut Dieu ? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Dieu veut les bénir. Parce que c'est la bénédiction suprême pour un homme que de rencontrer le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie et d'entrer dans l'éternité et la gloire de Dieu. C'est là la merveilleuse bénédiction que Dieu a pour tous les hommes. Alors s'il est facile, c'est vrai, de comprendre la première partie de ce verset, lorsqu'il est dit « c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit », c'est vrai, c'est assez aisé, il nous est facile de comprendre ce que ça veut dire. On ne comprend pas forcément de manière juste ce que veut dire la seconde partie lorsqu'il est dit « et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». La bénédiction de Dieu, Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre le sens de la seconde partie du verset, nous allons aussi consulter d'autres versions de la Bible. Il y en a énormément. Et celle que je cite, c'est la Louis II 1910 ou la 21. Mais il y a d'autres versions, quelquefois, qui font mieux ressortir le sens de ce que dit le texte grec ou le texte hébreu. Donc, il est bon pour nous, des fois, de lire d'autres versions pour les comparer, et cela nous aide à mieux comprendre. Par exemple, si je lis dans la Bible du semeur, la seconde partie, donc, où il est dit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin, la semeur dit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Toute la peine qu'on peut se donner n'y ajoute rien. Là, dans la Bible, en français courant, Il est dit, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. La Darby nous dit, toujours la seconde partie, il est dit, et il n'y ajoute aucune peine. Et je vais m'arrêter à la David Martin, j'aurais pu en citer bien d'autres. La David Martin nous dit, et l'Éternel n'y ajoute aucun travail. Quand Dieu bénit, quand Dieu a déclaré une parole de bénédiction sur la vie d'une personne, ou quand Dieu a agi en faveur d'une personne, ce que Dieu a fait est parfait, ce que Dieu a dit est parfait. Et ça, nous devons le comprendre. Quand Dieu déclare en tant que souverain créateur qui nous a donné la vie, si Dieu te donne une parole pour te bénir, c'est suffisant. Il ne faut pas chercher autre chose. Parce qu'il arrive que nous recevions des paroles de bénédiction et nous allons encore chercher autre chose. Nous voulons encore d'autres paroles. Il faut s'arrêter à ce que Dieu a dit. Si Dieu t'a béni, Dieu t'a déclaré quelque chose, conserve fermement dans ton cœur ce que Dieu t'a dit, mais arrête-toi à cela. Si Dieu a agi dans un sens en ta faveur, apprécie ce qu'il a fait, apprécions ce qu'il a fait et arrêtons-nous à cela et n'allons pas chercher autre chose. Nous allons voir ce soir quatre règles d'or qui concernent la bénédiction de l'Éternel, celle donc qui enrichit et n'est point suivie de chagrin. Quatre règles d'or. Dans tous les domaines de la vie, pour qu'il y ait la réussite, il y a des règles, effectivement, et des règles d'or. Vous savez, il y a des fois des personnes qui forcent les choses pour obtenir une bénédiction. Ça se fait, mais même dans le milieu chrétien, il y a des personnes qui forcent les événements, les circonstances. Elles veulent les maîtriser, elles veulent elles-mêmes provoquer les choses pour qu'une bénédiction puisse arriver dans leur vie. Moi, j'en connais une personne très bien connue, que j'ai connue personnellement. La personne devait passer un entretien et des tests pour un poste. La personne a été à l'examen, elle a passé l'entretien, et à un moment donné, il y avait un test à passer et elle n'a pas réussi au test. Donc normalement, elle était recalée, puisqu'elle n'a pas réussi. Mais malheureusement, au moment où ça s'est fait, la personne aurait pu dire « heureusement ». Mais moi, je dis volontairement « malheureusement ». La suite fera comprendre pourquoi je dis cela. Malheureusement, cette personne, sa maman, connaissait le directeur de l'entreprise où elle passait les tests. Et sa maman avait fait un deal avec ce directeur pour que son enfant puisse obtenir le poste, quoi qu'il se passe. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Dans la réalité, la personne n'a pas réussi au test. Mais comme il y avait des pourparlers entre deux personnes qui se connaissaient, le directeur de l'entreprise et la maman de la personne en question, il a été convenu que cette personne obtienne le poste. Donc, même si elle a échoué, elle a obtenu le poste. Mais la suite montrera que ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas dans la falsification. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans la tromperie. Dieu n'est pas dans la tricherie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. D'aucune manière, Dieu ne peut utiliser des pratiques néfaste et ténébreuse pour bénir son enfant. Et cette personne a obtenu le poste. Mais la personne n'a jamais été heureuse dans ce poste. Ça n'a été que des déboires, des épreuves, des souffrances. Pendant des années, déboires, épreuves, souffrances. Elle a fini même par démissionner de ce poste parce qu'elle était très malheureuse et rien ne marchait. Parce qu'à la base, la source de cette réussite, ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est point suivie de chagrin. C'était plutôt la malédiction. Parce que les moyens utilisés pour qu'elle obtienne ce poste ne venaient pas de Dieu. Regardons les quatre règles d'or qui définissent la bénédiction de l'Éternel. Si, par exemple, vous voulez faire un beau gâteau, comme moi, par exemple, j'aime bien les gâteaux, les beaux gâteaux au beurre. Si quelqu'un veut m'offrir un beau gâteau au beurre, n'hésitez pas. Et que vous ne vous y connaissez pas trop, vous allez suivre une recette. Et maintenant, si vous ne suivez pas la recette à la lettre et que vous vous trompez d'ingrédients, vous vous trompez aussi au niveau des mesures à prendre, que vous ne faites pas les choses comme il faut, les mélanges au moment où il le faut, la cuisson comme il le faut, vous risquez peut-être de ne pas avoir un beau gâteau au beurre, mais d'avoir peut-être une galette. Et donc le résultat escompté ne sera pas celui que vous aviez souhaité. Eh bien, c'est la même chose pour la bénédiction de l'Éternel. C'est la même chose. Il y a des règles d'or. En Deutéronome 4, 1 à 2, lorsque Dieu parlait à son peuple d'Israël, il leur a donné un ensemble de règles et de lois à respecter. À travers Moïse, tout cela leur a été inculqué et annoncé. En Deutéronome 4, 1 à 2, Dieu parle à Israël, mais Dieu parle à son Église également. Donc à nous qui sommes là ce soir, et à toute personne qui pourrait entendre et qui pourra entendre ce message, Dieu lui parlera également. Il dit « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. » Donc, c'est bien Dieu qui parle. Et il nous parle aussi à nous également. « Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. » Il y avait donc là une promesse de bénédiction. La bénédiction, c'était qu'après avoir été esclave en Égypte pendant 400 ans, avoir beaucoup souffert, avoir été maltraités par les Égyptiens, Dieu leur avait dit « Maintenant, je vais vous conduire dans un beau pays, un pays béni où coule le lait et le miel. » Et il leur dit « Justement, mais attention, je vous donne des lois et des ordonnances, mettez-les en pratique, cela vous permettra de rester en vie et vous allez pouvoir entrer en possession donc du pays que je vous donne, moi l'Éternel, le Dieu de vos pères. » Et il leur dit ceci, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. » En Deutéronome 12, 32, il leur rappelle les mêmes choses en leur disant, « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Et c'est donc là la première règle d'or de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est point suivie de chagrin. Cela consiste à ne rien ajouter à ce que Dieu dit, ne rien retrancher à ce que Dieu dit, ne rien ajouter à ce que Dieu fait, ne rien retrancher à ce que Dieu fait. Première règle d'or, lorsque Dieu a décidé de bénir et d'agir en notre faveur. Si on y ajoute quelque chose, si on en retranche quelque chose, à ce moment-là, il y a un impact. L'impact, il est spirituel. Et ses effets pourront aussi se manifester dans notre vie réelle et naturelle. Et là où Dieu voulait nous bénir, il se peut que cela échoue. Et cela échouera à cause de qui ? Non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Nous qui ajoutons ou retranchons dans la bénédiction de l'Éternel. D'ailleurs, en ce sens, il y a des gens qui cherchent à corriger Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Mais il y a des personnes vraiment qui voudraient corriger Dieu. Savez-vous qu'il y a des gens qui voudraient même créer l'homme parfait? Il y a des gens qui voudraient créer l'homme parfait, tout en le maintenant dans ce monde où il y a le péché. Cet homme parfait, s'ils arriveraient, en fait, vivraient dans un monde de péché. Ils voudraient créer l'homme parfait. Ça s'appelle l'eugénisme. L'eugénisme, c'est l'ensemble des recherches biologiques et génétiques. Et vous savez que les hommes font donc des recherches biologiques et génétiques et des pratiques morales et sociales qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains. La procréation, le fait de donner la vie et de nous donner la vie à des hommes ou à des animaux, procréer des hommes ou des animaux, l'homme qui pense pouvoir faire de telles choses, donc à des sujets sains, et par là même, écoutez bien, d'améliorer la race humaine. L'eugénisme, l'homme veut améliorer ce que son créateur a fait. L'homme veut améliorer la race humaine. Ecclésiaste 10, 5, 7 nous dit « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. » Et il dit « La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » C'est-à-dire que tout est chamboulé, tout est renversé, tout est vice-versa. On inverse les choses et des personnes, parce que les personnes qui réfléchissent à ça, ce sont des personnes très intellectuelles, des scientifiques, des philosophes, des personnes qui réfléchissent sur la vie dans la société, comment les choses devraient être. Ce ne sont pas des personnes qui sont bêtes, ce sont des personnes qui ont fait des études, qui ont des capacités intellectuelles et qui réfléchissent sur comment améliorer la race humaine. Mais dans la parole de Dieu, il est dit « La folie occupe des postes très élevés. » ces personnes sont atteintes de folie. Parce que comme elles ne connaissent pas Dieu, elles pensent vouloir corriger Dieu dans sa perfection et dans sa souveraineté. Nous, heureusement, nous sommes de ceux qui, comme l'Ecclésiaste également en Ecclésiaste 3,14, pouvons dire « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. » Et nous, nous devons nous positionner en ce sens-là. Dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait, il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Et il est dit, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. La deuxième règle d'or de la bénédiction de l'Éternel, pour que nous puissions en jouir librement, si vraiment nous voulons bénéficier et jouir pleinement de la bénédiction de Dieu, sans avoir de chagrin dans cette bénédiction, c'est-à-dire sans avoir quoi que ce soit à y ajouter. Du moment où Dieu a agi, du moment où Dieu a parlé, nous n'avons rien à ajouter à ce qu'il a dit ou à ce qu'il fait. Et c'est ça la bénédiction pour nous, d'accepter ce qu'il fait, comme il le fait. Et à ce moment-là, la deuxième règle d'or, c'est la crainte de l'Éternel. Et c'est la fin de ce verset que je viens de citer. Il est dit, c'est ainsi afin que qu'on craigne Dieu. C'est afin qu'on le craigne. C'est là la seconde règle d'or de la bénédiction de l'Éternel. C'est le respect total de ce que Dieu nous demande. Le respect total afin que l'on reconnaisse que Dieu est au-dessus de tout, qu'il domine sur tout et que nous devons faire ce qu'il attend de nous tel qu'il exige et en lui faisant pleinement confiance. Un total respect envers Dieu, envers ce qu'il déclare et envers ce qu'il nous demande de faire, envers ce qu'il fait. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il est dit que Dieu a béni l'homme. Donc l'homme, normalement, avait reçu toutes sortes de bénédictions que Dieu avait mis à sa disposition. Dieu a béni l'homme. Je le lis. Genèse 1, 27, 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous voyez, au verset 28, il est dit, Dieu les bénit. Donc nous avons la preuve que l'homme a été béni. Ça veut dire que Dieu a prononcé sur la vie de l'homme des paroles de bienfait, de grâce, d'amour, de prospérité, de bénédiction. Et il n'a pas fait que prononcer parce que sa parole est créatrice. Il avait déjà créé l'homme, il l'a mis sur la terre et à la disposition de l'homme sur la terre, il y avait toutes sortes de bénédictions. Il était dans un jardin merveilleux. Un jardin où il devait être heureux. Il devait simplement bénéficier de ce lieu merveilleux, prendre soin simplement du jardin. Ce n'était pas un travail. L'homme ne devait pas travailler quand il était dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas un travail. C'était en fait un loisir. C'était ça, vivre dans le jardin d'Éden. Un loisir. Il allait s'occuper à prendre du plaisir, à bénéficier de tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Dieu le bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les avait bénis. Mais malheureusement, vous le savez, on le connaît trop bien, lorsque la chute est arrivée parce que l'homme n'a pas été ferme face à ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez quand on modifie la parole de Dieu ou quand on modifie ce que Dieu dit. Le manque de fermeté par rapport à ce que Dieu déclare. Dieu nous bénit par sa parole, il nous bénit par ses actions. Mais des fois nous allons modifier ce que Dieu a dit, nous allons modifier ce qu'il a fait. Et la bénédiction qu'il nous avait promis, nous ne la voyons pas arriver. Et des fois, nous demandons à Dieu, mais Seigneur, pourquoi ? et ne m'avais-tu fait une promesse? Ne m'avais-tu pas dit que tu ferais? Mais si nous rentrons en nous-mêmes et si nous sommes sincères et que nous cherchons des fois la cause de l'échec, Dieu va nous rappeler, oui, je t'avais dit et j'avais agi de tel sens en ta faveur, mais voici ce que tu as fait vis-à-vis de ce que moi j'avais décidé. Et à partir de là, la bénédiction qui était prévue pour toi, tu l'as ratée. L'homme, effectivement, est sorti de la bénédiction. Face à l'ange déchu qui est venu les tromper, les influencer, l'homme a écouté la voix du diable, nous le savons. Et la conséquence a été la suivante, en Genèse 3, 17, Dieu va dire à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Écoutez bien ce que Dieu lui dit maintenant. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Ce n'était pas ça au départ. Ça devait être un plaisir pour lui dans le jardin d'Éden. Maintenant, ça ne va plus être un plaisir. Et justement, à ce moment, ça devient un travail. Là, il doit faire maintenant des efforts. C'est-à-dire que vis-à-vis de la bénédiction de Dieu, maintenant, lui-même, l'homme, il doit ajouter quelque chose à ce que Dieu avait dit au départ. Vous voyez? Maintenant, il est obligé d'ajouter quelque chose pour jouir des bénédictions de Dieu. Maintenant, il doit travailler. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Il n'était pas question de ça. Jamais Dieu n'a dit ça dans le jardin d'Éden. Maintenant, il y aura des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Là, c'est une activité maintenant qu'il est obligé d'accomplir pour manger, alors que ça devait être un plaisir, un passe-temps. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ainsi, la seconde règle d'or, c'est de craindre l'Éternel, de le respecter, d'honorer ce qu'il nous dit et ce qu'il fait pour ne rien y ajouter, rien en retrancher. La troisième règle d'or, avoir une confiance totale en Dieu, totale, totale. Ça veut dire que cela ne laisse point de doute. L'apôtre Pierre, un jour, a fait une expérience qu'aucun autre apôtre a fait. La Bible, en tout cas, ne nous rapporte pas qu'un autre serviteur de Dieu ait fait cette expérience. Que ce soit parmi les autres apôtres, les évangélistes, les docteurs de la loi, les prophètes et tous les ministères que l'on pourrait trouver dans la Bible, jamais il nous est dit qu'un autre que Pierre a fait cette expérience. Et d'ailleurs, cela, des fois, peut créer de la jalousie, de l'envie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, car Dieu bénit chacun de nous et à chacun, il donne une bénédiction ou des bénédictions particulières. Mais rappelons-nous que tout ce que nous avons, c'est pour que nous soyons au service des autres. Et Pierre a fait cette expérience. Élie n'a pas fait cette expérience. Moïse, sous l'ordre de Dieu, a ouvert la mer Rouge et tout le peuple a traversé à pied sec. Élie, avec son manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert avec son disciple. À l'époque, c'était son disciple Élisée. Ils ont passé à pied sec le Jourdain. Lorsqu'Élie a été enlevé dans un char de feu, dans un tourbillon, Jésus-Christ, le Père, l'Esprit Saint, l'a enlevé. Élisée, prenant sa succession en tant que prophète, il avait maintenant le manteau d'Élie. Lui aussi, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Il a traversé également à pied sec. Mais aucun n'a fait ce que Pierre a fait. Il n'y a que Pierre qui a fait cette expérience. Pierre a marché sous les eaux. comme Jésus-Christ lui-même. La Bible nous relate qu'il n'y ait que deux personnes. Concernant Jésus, il nous est dit que le monde entier ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on devrait écrire s'il fallait raconter tout ce que Jésus-Christ a fait. Il est bien dit Jésus-Christ. Il ne parle pas des autres, apôtres, prophètes ou autres. Et il nous est dit aussi que nous devons nous arrêter à ce qui est écrit, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, 6, il dit « Afin que nous apprenions en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Donc, nous nous arrêtons à ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et donc, nous considérons qu'il n'y a que Pierre qui ait fait une telle expérience. Un jour, cet homme se trouvait avec les autres disciples dans une barque. C'était la nuit. C'est pas toujours très rassurant, mais c'était quand même des marins pêcheurs. Ils en avaient l'habitude parce que la pêche se passe souvent la nuit pour attraper les poissons. Donc, on peut dire quand même c'était des hommes aguerris. Ils en avaient l'habitude. Mais là, il y avait quelque chose de particulier parce qu'ils vont être effrayés, tout aguerris qu'ils étaient, parce qu'ils voient Jésus qui vient sur les eaux à leur rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tempête. Il y avait une tempête à ce moment-là, là où ils étaient sur l'eau. Et à un moment, ils étaient en train de paniquer et Jésus vient à leur secours. Donc, à un moment donné, ils voient Jésus qui vient à leur secours. Et Jésus est en train de marcher sur l'eau. Au départ, ils pensent que c'est un fantôme. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Si nous sommes en pleine mer, dans une barque, le temps n'est pas favorable. Et même si c'est Jésus qui nous apparaît sur les eaux, je pense que du premier coup, on ne va pas se dire « Alléluia, gloire à Jésus ». On aura peut-être plus tendance à dire « Au nom de Jésus, esprit, si tu n'es pas de Dieu, je te chasse », n'est-ce pas? Je pense plus que c'est ce qu'on fera. Donc leur réaction humaine était normale. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et Jésus va donc les rassurer. Et là, Pierre, c'était celui qui aimait se mettre en avant. Il était fougueux, il aimait se mettre en avant, et il apprendra plus tard, justement, par la formation divine, à devenir humble. Et là, je pense que, on ne sait pas, on ne peut pas tergiverser, mais en tout cas, il va dire à Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je vienne à ta rencontre. Et Jésus lui dit, viens. Alors, il commence à sortir le pied de la barque. On ne sait pas s'il a hésité, la Bible ne le dit pas. Est-ce qu'il a remis le pied de la barque rapidement avant de réfléchir? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il en est sorti de cette barque à un moment donné et il a réellement marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Le seul souci, c'est qu'à un moment donné, à cause des soubresauts, du vent, de la mer agitée, il a commencé à douter. Il marche réellement. Il sait que normalement, c'est un marin pêcheur, il s'y connaît. Il sait que normalement, il devrait s'enfoncer, il devrait couler. Mais il marche là, il marche vraiment. Et il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi, permets que je vienne. Jésus lui dit, viens, il marche sous les eaux. Ça devrait le rassurer, non? Il devrait lui-même en train d'être, il devrait apprécier ce miracle et se dire, waouh, je marche sous les eaux. Mais non. Malheureusement, il regarde aux circonstances qui sont agitées au niveau du temps. Et là, il va commencer à douter. Et en doutant, il va commencer à s'enfoncer et à couler au point qu'il appellera Jésus, « Sauve-moi ! Sauve-moi, Seigneur !» Et voyez, c'est ce qui se passe aussi lorsque on ne fait pas une totale confiance à Dieu. Dieu nous bénit, mais même dans la bénédiction, des fois, on ne lui fait pas une totale confiance. On trouve que Dieu n'a pas bien fait ou il n'a pas bien dit. Alors, comme Pierre, à un moment donné, parce que l'ennemi cherche à nous tromper, l'ennemi voit que Dieu nous bénit, il vient créer des circonstances pour nous troubler. On oublie ce que Dieu nous a dit ou ce que Dieu nous a déjà montré par rapport à ce qu'il nous a dit qu'il ferait. Et on commence à regarder aux circonstances. Et comme Pierre, on commence à s'enfoncer et à couler, alors que la bénédiction est là dans notre vie. Et on commence à couler. La troisième règle d'or, c'est faire une totale confiance à Dieu. Si Dieu m'a dit cela, c'est ça. Si Dieu a agi, circonstances pour me perturber. Vous savez que même des gens ratent des examens comme ça des fois. Vous pouvez avoir des enfants qui sont studieux toute l'année scolaire, qui travaillent très bien, qui n'ont pas de difficultés particulières. Mais à l'examen, malheureusement, avec les émotions, avec les sentiments, il y en a de ceux qui paniquent, qui ont des appréhensions. Et ce même étudiant qui était vraiment à l'aise durant toute l'année, qui réussissait parce qu'il en a les capacités, celles que Dieu lui a données. Malheureusement, des fois, il y a celles que le diable donne aussi. Parce qu'il y a des gens, ça c'est une aparté, hein, il y a des gens qui réussissent à des examens parce que le diable leur fait réussir. Ces gens-là passent des pactes avec le diable pour réussir. C'était juste une aparté. Je parle de ceux qui réussissent de manière normale, sans avoir passé un pacte avec le diable. Mais il se trouve que la personne peut paniquer. Et cette personne qui a des capacités, elle arrive à douter, à mettre de bonnes réponses. Elle va commencer à barrer ce qu'elle a mis et elle va réécrire d'autres choses. Et des fois, c'était donc la bonne réponse. Et là, maintenant, elle va écrire des réponses fausses. Elle panique et certaines même recommencent tout. Certaines déchirent les feuilles, mettent tout à la poubelle et ils recommencent tout. Ils avaient presque terminé parce qu'ils commencent à douter. Alors que ce sont des choses qu'ils maîtrisent, mais là, ils paniquent. Ils ne savent même plus si c'est vraiment ça. Ils mettent leurs feuilles de côté, ils recommencent tout et des fois, ils ratent les examens comme ça. Le doute. Le doute nous fait donc paniquer comme Pierre qui a paniqué. La dernière et quatrième règle d'or, avant que nous puissions terminer, consiste à ne pas vouloir transformer ce que Dieu nous a dit ou transformer ce qu'il a fait. Ne pas vouloir transformer. Dieu m'a dit ça, mais s'il ajoutait ça en plus, ce serait encore mieux. Dieu a fait comme si. Mais si de cette manière il faisait aussi, ce serait encore parfaire les choses. Donc on veut à ce moment-là modifier la bénédiction. On veut la transformer. Dans Marc 16, 17 à 18, quand Jésus est apparu aux disciples après sa résurrection, il leur dit maintenant, allez annoncer la bonne nouvelle à tous. Ceux qui croiront, se feront baptiser, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, ne seront pas sauvés. Et puis, il ajoute ceci. Il leur dit, après, alors, j'avais noté cela, je le dis quand même, ça fait partie de l'incrédulité, du fait que l'on doute. Lorsqu'il leur est apparu, c'est vrai, il a... Marc 16, 14, et vous voyez, parce que quand Jésus est apparu, ils n'ont pas cru les apôtres. C'était quand même les apôtres. Hein. Ce n'étaient pas tous les autres disciples qui suivaient Jésus. C'étaient les apôtres, les personnes les plus intimes que le Christ ait côtoyées sur la terre. Les personnes qui ont été les plus intimes lorsque Dieu s'est fait homme et qu'il est venu sur la terre en dehors de ses parents, ces apôtres. Pourtant, Jésus, ces personnes, ces apôtres ont passé au moins 3 ans avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, des prodiges, des miracles. Ils en ont fait eux-mêmes. Et Jésus leur avait dit clairement qu'il allait être crucifié. Il leur avait dit cela. Et qu'il ressusciterait aussi. Il leur avait dit cela. Mais quand il leur a été annoncé que Jésus était ressuscité, ils n'ont pas cru. Et quand Jésus leur apparaît là où ils avaient peur, ils se tenaient ensemble enfermés dans les maisons, parce qu'ils avaient peur pour leur vie maintenant. Et Jésus leur apparaît, en Marc 16, 14, il dit, « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Voyez le doute, l'incrédulité, lorsqu'on commence à paniquer, on commence à ne plus croire, à ne plus avoir confiance, on doute et on commence à s'enfoncer et à s'écouler. Là, Jésus leur fait ce reproche, ils ont été incrédules. Pourtant, Christ leur avait dit, je ressusciterai. La dernière règle d'or, maintenant j'y arrive pour terminer. Donc, je l'ai déjà annoncé, ne pas modifier la bénédiction que Dieu nous a annoncée ou de ce qu'il a fait. J'étais en train de citer Marc 16, 17 à 18. Et Jésus, justement, donnait, quand il leur dit d'aller maintenant annoncer la bonne nouvelle, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et cela est réservé à tous les chrétiens. Tous les enfants de Dieu, par la foi en Christ, sont amenés par la puissance du Christ à manifester ses miracles, ses dons et ses prodiges. Tous les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants et pour son Église. Mais vous savez qu'il y a des gens, des fois, qui tordent le sens de ce que Dieu dit. Donc, ils transforment la bénédiction de Dieu. Je vais m'arrêter sur « ils saisiront des serpents ». Je peux quand même donner l'exemple concernant « s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ». Il y a une sœur un jour qui, lorsqu'elle est venue prendre ce qu'il y avait dans un récipient, alors je ne sais pas si c'était un médicament ou autre chose, elle s'est trompée et elle a bu de l'eau de Javel. Elle a bu de l'eau de Javel. Normalement, ça aurait dû lui causer du tort. Ça aurait dû lui faire du mal. Ça aurait dû avoir des conséquences sur sa santé. Mais exactement comme Dieu dit, c'est parce qu'elle s'est trompée. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Elle s'est mise à prier aussitôt. Quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle venait de faire, qu'elle avait bu de l'eau de Javel, elle s'est mise à rendre grâce à Dieu, à prier pour que Dieu la garde. Et effectivement, elle n'a jamais eu aucun mal par rapport à cela. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Et maintenant, j'en viens à s'ils saisiront des serpents. L'apôtre Paul, vous le savez, un jour, il a fait naufrage dans l'île de Malte avec tout l'équipage dans le bateau dans lequel il était. Et puis à un moment donné, dans des broussailles qu'il était en train de ramasser pour faire du feu parce qu'il faisait froid, à un moment donné, un serpent va lui piquer la main, un serpent va le mordre. Et on s'attendait, les gens qui étaient là, il est dit dans la Bible, il est dit les barbares, c'est-à-dire les autochtones, ceux qui étaient là de l'île de Malte, ils s'attendaient à ce que cet homme meure, à ce que l'apôtre Paul puisse mourir de suite, à ce que son bras puisse enfler, à ce que le poison puisse agir. Et il se disait même que puisque la justice des hommes n'a pas voulu punir cet homme, et la justice divine l'a rattrapé. Et puis, il n'est rien arrivé à l'apôtre Paul. Rien. Et c'est en ce sens-là qu'il est dit, si ils saisiront des serpents. C'est-à-dire que toute chose qui veut nous faire du mal, qui veut nous surprendre, qui veut nous attaquer, des choses que nous n'avons pas cherchées, que nous n'avons pas provoquées. Dieu nous gardera par la foi. Il y a des fois où Dieu permettra des choses, mais dans ce qui est dit là, ça veut dire que Dieu nous gardera, comme il a gardé l'apôtre Paul. Il a secoué sa main, le serpent est tombé, et il ne lui est rien arrivé. Ils saisiront des serpents, et ils n'auront aucun mal. Mais il y a des hommes, des fois, qui jouent avec ce que Dieu dit, parce qu'ils transforment ce que Dieu dit. Et il y a même des personnes qui sont des pasteurs, vous savez, qui font cela. Il y en avait un qui s'appelait Jamie Coates. C'était un pasteur du Kentucky aux États-Unis. Et sa famille était manieur de serpents depuis 3 générations. Donc lui, il était de la 3e génération. Et donc il avait l'habitude de manier les serpents. Il avait déjà été mordu à plusieurs reprises par des serpents. Il avait aussi déjà eu des déboires à cause de ça avec la justice. Parce qu'une fois, une personne dans son église, parce que malheureusement, il y a des choses extraordinaires, dans son église, eh bien, ils ont des serpents. Ils font un culte avec des serpents. Ils sont en train de louer Dieu, ils ont des serpents autour du cou. Chacun a un serpent, ils tiennent des serpents, ils manient les serpents. Et une fois, une dame qui a été piquée lors d'un culte est morte, et ça lui avait créé des soucis avec la justice. Il en a aussi eu d'autres. Et puis un jour, lors d'un culte, Il a été mordu une énième fois par un serpent. Et cette fois-ci, il ne s'en est pas sorti. Il en est mort. Il est mort. Parce que si jamais il avait voulu s'appuyer sur ce verset qui dit « Ils saisiront des serpents », mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Dieu le dit. Dieu ne nous demande pas d'aller chercher que nous soyons en difficulté. Il ne nous demande pas d'aller provoquer nous-mêmes une adversité, un danger dans notre vie. Il parle du fait que si nous sommes en danger, mais quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui veut nous faire du mal, qui tombe sur nous, inattendu, un piège qu'on nous tend, une attaque de l'ennemi. C'est en ce sens qu'il nous dit qu'il va nous garder. Mais il ne nous demande pas d'aller chercher des choses et de prononcer la parole de Dieu dans un sens qui n'est pas la parole de Dieu et dire que Dieu va nous garder. En tout cas, et cela a été filmé parce que c'était dans le cadre d'une télé-réalité aux États-Unis. C'était une émission de télé-réalité. Donc il a été filmé en plein culte lorsque le serpent l'a mordu. À un moment donné, on le voit, il a plein de sang sur sa chemise et il en est mort. Nous n'avons pas à transformer ce que Dieu dit. Ne transformons pas donc les bénédictions de l'Éternel. Restons attachés à la parole que Dieu nous a donnée et à ce que Dieu fait lui-même. Et à ce moment-là, cette bénédiction, nous allons pouvoir en jouir pleinement, en témoigner autour de nous. Cela aidera d'autres aussi à chercher Dieu, à vouloir les mêmes bénédictions que nous. Et nous serons de bons ambassadeurs de Jésus-Christ à ce moment-là. Dieu pourra nous utiliser pour véhiculer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te rendons gloire pour qui tu es. Nous savons que ta parole nous déclare qu'en toi, Christ Jésus, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions